sont des femmes aux profils divers, provenant de diverses classes sociales. Pendant une heure et sur un ton intimiste, nous interrogerons avec elles leur place, de celles qu'on leur a assignées à ce qu'elles en ont fait, vie, parcours, conception du monde et des rapports sociaux.
Je suis Zoubida Fall et vous êtes dans le podcast Conversation Féminine. Elle a commencé sa carrière en tant que professeure d'anglais et de français au secondaire, puis chef du département d'anglais à l'Institut universitaire de technologie de l'Université de Dakar, qui est devenue l'École supérieure polytechnique. Elle a par ailleurs été consultante en études africaines pour un consortium de 42 universités américaines sous l'égide de la Phelps Stokes Fund. Elle a aussi été fonctionnaire internationale à l'UNESCO pendant 23 ans, occupant plusieurs fonctions, parmi lesquelles directrice du bureau et représentante de l'UNESCO au Canada entre 1996 et 2001, avec résidence à Québec. Elle termine sa carrière à l'UNESCO comme directrice du bureau et représentante de l'UNESCO en Jordanie et en Irak. Elle prend sa retraite en 2003. Installée au Québec depuis 2006, elle est une retraitée très active. Entre 2018 et 2022, elle a été la présidente de la conférence des ONG de la francophonie. Elle coordonne chaque année les journées de commémoration Cheikh Anta Diop. Elle est membre du réseau international francophone des aînés, présidente du collectif pour la promotion du patrimoine immatériel en francophonie. J'ai eu l'immense plaisir de la suivre, de l'observer et de participer aux différentes activités de celle qui fête ses 4 fois 20 ans ces derniers mois. J'espère pour moi et pour nous toutes que nous pourrons, à notre tour et pendant aussi longtemps, continuer à servir, inspirer et accompagner celles et ceux qui nous entourent. Ma tata deux fois, par le Saint-Louis que nous avons en commun et ce métissage qui est le nôtre. Ndaye Marie Fall, bienvenue dans Conversation Féminine.
Bonjour et merci, ma fille, par deux fois aussi.
Oui.
Et vraiment, je me sens privilégiée, honorée d'être ton invitée.
C'est moi qui le suis.
Et comme je te le disais, il nous faut Conversation Féminine en intergénérationnel.
Oui.
Parce que c'est un domaine qui m'habite, vu l'âge que j'ai.
Oui.
Je dis souvent, en rigolant, que l'ancien directeur général de l'UNESCO, un des anciens, Federico Mayor, disait qu'à un certain âge, on devient des... comme les objets de musée, on devient... des objets précieux. Quand je lui ai dit la question « Que faites-vous maintenant ?», je lui ai dit que j'étais à la retraite. Il me dit « Plus jamais ce vilain mot. » Il n'y a que les Français qui peuvent penser que quand on a passé sa vie à gagner, quand on a passé du temps à gagner sa vie, quand on arrive à un certain âge, il vous faut vous retirer pour attendre la mort. Nous, en espagnol, on dit « la jubilación ». Donc, je dis souvent, je suis en jubilation, parce que effectivement, c'est le moment où l'on peut faire ce qu'on a envie de faire, ce que l'on a vraiment envie de faire. Et bien qu'Antiquité, puisque lui-même, Mayor, disait qu'à un certain âge, on est considéré comme des antiquités, mais nous sommes des antiquités précieuses.
Oui.
Voilà, alors, je suis en jubilation depuis 2003, et j'essaye de faire les choses que j'aime. Et les gens, avec les gens que j'aime, ou ceux au moins que j'apprécie. Et donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. C'est comme ça que j'ai créé donc, le collectif pour la promotion du patrimoine immatériel en francophonie, parce qu'en fait, le patrimoine immatériel, c'est ce que nous sommes. C'est nous en tant qu'êtres humains, c'est nous en tant que membres d'une société, d'une communauté, etc. Donc, il y a tout dedans. Il y a la gastronomie, il y a la culture, la danse, la chanson, la coiffure, l'habillement. Donc, je pense que dès qu'on dit patrimoine immatériel, on dit l'être humain dans son entièreté et dans sa globalité. L'autre organisation aussi que j'ai créée ici au Sénégal, la section sénégalaise, c'est le réseau international francophone des aînés. Mm-hmm. Parce que ici, en Afrique, on dit souvent que les personnes âgées ont une place spéciale, mm-hmm. qu'on s'en occupe. Parce que ces personnes avaient fait beaucoup d'enfants à un moment donné pour mm-hmm. leur sécurité sociale. Mm-hmm. Nous n'avons pas de sécurité sociale mm-hmm. et sur les 54 pays que compte l'Afrique, il n'y a que dans 10 pays qu'il y a une couverture médicale universelle. Mm-hmm. Et donc, ils ont fait beaucoup d'enfants, mais malheureusement, à l'heure actuelle, ce système-là s'est complètement détérioré. Mm-hmm. Et avec l'urbanisation, les familles se sont distendues, les relations des familles se sont distendues. Et trop souvent, ces personnes âgées se retrouvent abandonnées à elles-mêmes. Mm-hmm. Et il y a une personne pour qui j'ai beaucoup de respect mm-hmm. et beaucoup d'admiration. C'est le docteur Poulosso. Mm-hmm. Si jamais un jour il écoute ceci, mm-hmm. j'aimerais qu'il sache que j'ai beaucoup d'admiration pour l'action qu'il fait, parce que c'est lui qui a ouvert la première maison pour personnes âgées du côté du Lac Rose. Mm-hmm. Et je pense qu'il est en train d'en ouvrir une deuxième. Mm-hmm. Jamais je n'aurais cru qu'au Sénégal, oui. on pourrait arriver à ce moment-là où on met des personnes âgées dans des maisons
exact.
Au lieu que ces personnes soient dans leur famille.
Oui.
Voilà. Et c'est pour ça que je te dis que je considère qu'à l'heure actuelle, il y a tellement de choses pour lesquelles je dois remercier le Seigneur, parce que d'être arrivée à cet âge et de pouvoir d'abord me lever le matin, mm-hmm. me laver, mm-hmm. Aller faire mes courses, oui. pouvoir parler, mm-hmm. Faire ce que j'ai envie de faire, c'est un énorme cadeau. Mm-hmm. Et ça, je dois essayer de donner le maximum que je peux donner aux jeunes.
Oui.
Et c'est pour cette raison que je privilégie aussi l'intergénérationnel. Oui.
Et quand tu parles en fait de cette maison, de pouvoir créer une maison pour les personnes âgées et pour les personnes d'un certain âge, on s'en défend pourtant. On continue à s'en défendre comme quoi encore aujourd'hui les personnes âgées sont très entourées. Moi, je vais prendre mon exemple. Je me rends compte que non, ce n'est pas le cas parce qu'aujourd'hui mes parents aussi ont un certain âge. Et ben, nous ne sommes pas avec eux. Et ce qui était n'est plus, ce qui fut n'existe plus. Pourquoi on continue de s'en défendre? Pourquoi on continue de penser que rien n'a changé? Qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas.
Probablement parce que nous avons vécu avec cette illusion mm-hmm. que nos sociétés
oui.
sont celles qu'elles étaient.
Oui, oui, c'est vrai.
Et qu'on n'a pas envie de le reconnaître. Mm-hmm. Et c'est pour ça que je regarde la situation de manière très courageuse, mm-hmm. parce que c'est sûr que au début je me disais non, c'est pas possible,
oui.
mais quand on voit la réalité en face, on est obligé de le reconnaître,
oui.
et il y a non seulement cela, mm-hmm. mais il y a aussi les violences faites aux personnes âgées,
oui.
ça aussi on va le nier, comme
oui.
on nie le fait que les personnes âgées ne sont pas abandonnée à elle-même.
Je ne me suis jamais questionnée dessus.
Ah si,
en fait.
Si, elle existe, cette violence aux personnes âgées. Elle existe ici, au Sénégal, la violence faite aux personnes âgées.
Ouais.
Et parfois, quand tu entends ce Bourkoun Malakan Nofi Djougé, tu sais très bien que ça, c'est une violence.
Oui.
Même si ce n'est pas une violence physique,
oui.
c'est une violence verbale.
Son al-Nagnop,
c'est. Exactement.
Là que tu me le pointes.
Voilà.
Oui.
Voilà. C'est une violence, c'est une violence.
J'ai une inculture crasse sur cette question.
Ah non, non, moi, ça fait maintenant une vingtaine d'années, depuis que je suis à la retraite,
oui.
que ces questions m'interpellent
oui.
et que je m'y engage mais entièrement. Mais malheureusement, même les personnes âgées elles-mêmes ne se rendent pas compte mm-hmm. de cette nécessité. Mm-hmm. de faire ce travail-là.
Mm-hmm.
Certaines personnes âgées que je vais voir mm-hmm. en leur disant, bon, voilà, j'ai créé cette organisation, j'aimerais que vous puissiez nous rejoindre. Ah, tu vois, alors je dis, mais c'est important. Moi, j'aurais pu rester chez moi,
mm-hmm.
j'ai ma retraite,
oui,
j'ai
oui.
ma couverture médicale,
mm-hmm.
je peux aller voyager comme je veux, comme mm-hmm. je peux. Il y a des tas d'endroits que j'aimerais visiter,
mm-hmm.
mais où je ne vais pas. Parce qu'il faut que l'argent que je dépenserai pour voyager, que je puisse l'utiliser pour mettre en avant
mm-hmm.
Ces choses-là. Si on n'a pas de subventions,
mm-hmm.
etc., il faut que l'on puisse aussi compter sur nous-mêmes.
Oui.
Parce qu'on ne peut pas toujours se dire « je ne peux le faire que si ».
Oui, je
Alors,
comprends.
Et comme on dit « yalla yalla baissatol
mm-hmm. »,«
nimble de faifa que le
roboron »,
donc je me dis bon, que j'investisse. Mais malheureusement, ce qui se passe,
mm-hmm.
c'est que dans ce pays, où maintenant il n'y a que l'argent qui compte,
oui.
quand tu vas voir les gens disant « oui », mais ils pensent que je les utilise... pour moi, empocher de l'argent.
Oui, je comprends.
Mais ils ne savent pas que la plupart du temps, l'argent vient de ma poche.
J'entends trop bien. Je crois que je me sens très concernée par ça.
Donc voilà. Alors, c'est sûr que les deux années de COVID n'ont pas aidé.
Non.
Moi-même, dans ma propre famille, j'ai eu beaucoup de pertes. Mais les gens se sont remis en eux-mêmes.
Mm-hmm.
Ils se sont recroquevillés.
Mm-hmm.
Et ça devient de plus en plus compliqué de les faire bouger, de leur faire comprendre que c'est une nécessité.
Mm-hmm.
Parce que, et surtout les jeunes aussi, parce que moi je dis aux jeunes, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, mais c'est pour vous demain.
Mm-hmm.
Le travail que nous faisons, et c'est peut-être parce que je me sens coupable par rapport à mes petits-enfants,
mm-hmm.
parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris de ma grand-mère.
Oui.
Et pareil. Si je suis devenue celle que je suis aujourd'hui, je dis que 50%, c'est grâce à elle. Et évidemment, au bon Dieu. Mais c'est grâce à elle des leçons que Mam Fatcherif Aydra m'a données.
Mm-hmm.
Parce que à chaque fois que j'ai eu quelque chose qui était trop grand pour moi,
mm-hmm.
j'allais la voir et je pleurais dans ses bras. Et en me consolant, elle me donnait une leçon.
Oui.
Et c'est peut-être pour elle que, après avoir divorcé, je n'ai jamais eu envie de me remarier.
Oui.
Parce qu'elle m'avait dit, quand j'avais 16 ans, et que, évidemment, les cousines et autres se mariaient entre 15 et 18 ans,
oui.
que moi, je continuais à faire mes études, une des cousines m'a dit un jour où il y avait sa grande sœur qui se mariait et qui voulait que je sois sa une de ses filles d'honneur. Dinga yag ni nek fille d'honneur. Nek fi rek di jang rek nga fokk ne jang métier la. Bon, alors elle me l'a dit avec une telle hargne. À ce moment-là, il y a plus d'un demi-siècle. Te dire que tu ne pourrais jamais te marier, c'était comme si c'était une damnation.
Oui.
Et je me suis demandé ce qui allait m'arriver, parce qu'effectivement, il fallait être marié pour
oui.
être quelqu'un.
Tout à fait.
Donc, je vais voir ma grand-mère en pleurs. Et elle me dit, « Lolo, donc, je t'en ai dit. Quand je t'en ai dit, Lolo, t'en ai dit, il y a une bonne école. 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 Ndax dañu yoré wul li nga xamné mom lañu wara yoré pour mëna jang légui nak il faut que ñom tay ñu jang tay ñu sey ndax il faut que ñu am ku leen dekkal il faut que ñu am ku leen
dundal
il faut que ñu am ku leen solal il faut que ñu am lolu yépp bu féké né dañ koy def ah ñuy jur idom rek top to jëkkeur ak yoyu waye nak ma nga lay yëgal leen jëkkeur bu dëgg bi jeukeur bu jeuk bi bu mujj bi nga xamne yeen ñaar lañuy bolé sul moy sa métier moy sa liggéey
oui
so liggéeyé di nga mëna solal sa bop di nga mëna dëkkal sa bop di nga mëna dundal sa bop di nga mëna dundal keneen ak keneen ta dundal né bo bëggé laj té dépense bi bo ñëwé mëna la so bu xut mëla bëss bu yalla sak nga talal loxo
oui le seul oui
lolu yeb do ko am bon nak bayilen ñom ñoñu ñu sey ta yo nga topato sa jang yi.
Tout à fait, c'est exactement ça, que le seul et unique mari qui restera avec toi tout au long de ta vie et avec lequel tu seras enterré plus tard
dans
le même trou, voilà. Ce sera voilà. Ce métier que tu auras choisi, voilà. Ce travail, cette autonomie financière que tu auras acquis pour toi-même,
exact.
Et qui t'accompagnera le restant de tes jours en fait, et que c'est le seul mariage, c'est le seul vrai mariage en fait.
Et je pense que cette leçon-là m'est restée.
Oui.
Une fois que j'ai divorcé, et mm-hmm. de ce temps-là, on ne divorçait pas.
C'était mais, en quelle année? Il y a longtemps?
Il y a très longtemps.
D'accord.
Ça fait plus de 50 ans.
D'accord.
Ça fait près de 50 ans, oui. Que j'ai divorcé. Donc, j'avais aucune envie mm-hmm. de me remarier. Mm-hmm. Et d'ailleurs, à chaque fois que les gens me disaient, alors, Anna Serigne, mais Amul Serigne. Yalla, il dit Serigne, yalla terre.
Comme si tu avais demandé
voilà.
Toi-même.
Yalla terre, je répondais. Yalla terre. Donc, je pense que c'est cette leçon de ma grand-mère qui oui. m'est restée. Mm-hmm. Et évidemment, bon, les gens disaient plein de saleté. Mm-hmm. Et à chaque fois que j'arrivais, je pleurais, elle me disait. Xam nga lu mu lay yeugal nak. Momo gemiñu nit ñi. Lu len neex ñu wax.
Exactement.
Lu len neex ñu wax momo sen gemi. Oui. Waye mang la yeugal len. Buñ la yakalé ci gali xatch fexel ba bu ci sa loxo dem
je comprends
lolu donc lo ci joy nañ wax lu len neex momo sen gemmi tu vois alors il y a comme ça des tas de leçons mm-hmm. que j'ai apprises de ma grand-mère et ce que j'ai regretté c'est que quand j'aurais pu m'occuper vraiment ouais. d'elle mm-hmm. elle nous a quittés.
J'ai ce même regret là, je nourris beaucoup de ce regret là. Et c'est, ouais.
Elle nous a quittés. Et comme je dis, j'ai donc cette culpabilité vis-à-vis de mes petits-enfants.
Oui.
Parce que ce rôle que ma grand-mère a joué, je n'ai pas pu le jouer pour mes petits-enfants.
Je comprends. J'entends ça très bien. Parce que moi-même, j'ai été élevée par mes grands-parents. J'ai été élevée, bien évidemment, par ma mère. Mais j'ai grandi dans mes deux maisons familiales. Je dis 50 mètres parce que ça permet d'appréhender la distance. Donc j'ai grandi entre ma famille maternelle et ma famille paternelle, mais avec des figures féminines très fortes en fait. Avec Malika Bouralep du côté marocain, de la grand-mère paternelle, et Maïmouna Gueye du côté Wolof, Poulard, du côté de ma mère. Et au moment où elles sont parties trop tôt pour moi aussi, parce que je n'ai rien rendu, en fait, de ce qu'elles m'ont donné, de ce qu'elles ont inculqué. Je ne pensais pas que ce serait... Je ne m'attendais pas à ce que la conversation aille là. Ouais, je ne m'attendais pas à ce que ça aille là-bas. J'ai parlé Wolof, par exemple. Quand je parle Wolof, les gens s'étonnent que je parle un aussi bon Wolof. Parce qu'on ne s'attend pas à ce que mon Wolof soit aussi bon. Mais ça, je le dois à ma grand-mère maternelle. Cette connaissance profonde, on va dire, des mécanismes, des rouages de cette société dans laquelle nous évoluons. Donc, j'entends quand tu dis ça. J'entends parfaitement ce que les grands-mères ont pu représenter dans la vie des petits-enfants, etc. Moi, elles m'ont fait beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension. Ça vient d'elles. Aujourd'hui, par exemple, quand je dois cuisiner, comme c'est ma grand-mère paternelle avec qui j'ai grandi, j'ai toujours le réflexe de la cuisine marocaine, ce qui est assez étonnant. Et quand je dois parler, je pense, je réfléchis, je fonctionne avec une société qui est foncièrement Wolof. En tout cas, dans la plus
exactement
pure tradition Wolof. Donc voilà,
exactement
on se retrouve.
Exactement la même chose. D'ailleurs, les gens sont souvent étonnés que je sache si bien cuisiner marocain.
Oui.
Bon, écoute, j'ai été élevée comme ça. Bon,
Mamfat Cherif
Aïdera.
Oui.
Du côté maternel, évidemment, c'est la région de Ndande.
Oui.
Et c'est le Wolof
oui.
profond. Et évidemment, du côté de son père, c'est entre la Mecque et l'Irak. Mm-hmm. Et évidemment, marié à un Marocain de Fès.
Oui.
Et on dit toujours que les fascistes se sentent toujours les rois de...
On est fasciste. Même des générations plus tard, il y a quelque chose. Alors, moi qui ai et le prénom et le nom typiquement Fassi, donc...
Exactement. C'est pour ça quand la première fois que j'ai parlé à Fatou, j'avais besoin d'elle, mm-hmm. l'année dernière, mm-hmm. pour pour cette autre conversation féminine
oui.
dans le cadre de cette activité qui avait été organisée par Dibomba Limbok. Et elle me dit, ah, mais je vais inviter Zubida Fall. Mm-hmm. Ah, je dis Zubida, mais il n'y a Fall, pas comment? Beaucoup de Zubida Fall comme ça. Hein. Et puis après, bon, je n'ai pas posé d'autres questions jusqu'à ce que je te rencontre.
Exact.
Et puis je me suis rendu compte
que... Je suis Benjeloun.
Et puis en plus que je connais très bien ta maman, etc. etc. Donc je lui ai dit, ah, mais qui se va d'homme là?
Exactement.
Donc, voilà. Exact. Alors, bon, donc, comme je dis, je me sens très, très coupable. Mm. De n'avoir pas pu redonner autant que ma grand-mère m'a donné. Parce que, bon, quand on a une carrière, bon, moi, Magnanolon, que j'ai une carrière. Oui. Donc, j'ai eu une carrière, elle peut être fière là où elle est, du résultat. Parce que j'ai eu une carrière dont je n'ai pas à me plaindre, qui m'a permis de me tenir debout, même quand il y a eu des moments où Ngaf Kastalo, comme on dit, Fakastalou, Djurat, Tahaou, voilà, jusqu'à ce que je prenne ma retraite et que je puisse maintenant essayer de faire en sorte que je redonne un petit peu de tout ce qu'elle m'a donné et de tout ce que j'ai reçu ailleurs.
Exact.
Parce qu'il y a eu beaucoup.
C'est ça. Et d'où est venue cette construction-là qui a fait, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé à l'école? Quelle place vous étiez destinée? Ou comment vous avez fait pour arriver et finir
votre
carrière
à l'UNESCO? Encore une fois, pour que j'aille à l'école, c'est ma grand-mère qui l'a décidé.
Ouais.
Parce que du côté paternel, tous les enfants de mon père, aucun n'est allé à l'école française.
Okay.
Il était fondamentalement opposé à l'école française. Et au moment de l'indépendance, il a obligé tous ses enfants à renoncer à la nationalité française. Donc, lui ne voulait pas que j'aille à l'école, mais ma grand-mère a insisté. Elle a décidé de me mettre à l'école. Mais vu qu'elle savait qu'elle n'avait pas les skills pour pouvoir m'accompagner, elle avait deux amies qui étaient des bonnes sœurs. Et elle leur a demandé si elle serait en mesure de m'aider pour mes devoirs. Alors, elles ont dit oui. Ce qui fait que quand je sortais de l'école, j'allais au couvent. Et c'est là où ces femmes m'aidaient à faire. Et c'est pour ça que je dis, elle m'a beaucoup donné, mais d'autres aussi. Donc, m'aider à faire mes devoirs, etc. etc. Alors, je les vois, elles étaient toutes petites. On les appelait Canette et Caneton. Et donc, ma grand-mère, quand il y avait des choses à l'église, elle y allait. Et les gens lui disaient, Fat Sherif, comment toi, tu peux aller à l'église? Elle dit, mais pourquoi je n'irai pas à l'église? L'église, c'est une maison du bon Dieu. Donc, quand elle prie dans leur langue, moi, je prie avec mon bismillah. Mais... gisumalu tax munu ma dem église église keuru yalla la tam yalla lañ fay jaamu man damay jaamu yalla damay dem. Et donc quand tu as été aussi élevé par une femme comme ça de cette grandeur, tu ne peux pas comprendre que l'on puisse tuer au nom d'une religion, quelle que soit la religion, quelle que soit. Et donc moi, j'ai toujours essayé de faire en sorte que l'on se reconnaisse toujours en l'autre. L'altérité est une chose très importante dans ma vie. Et c'est pour ça qu'en général, de prime abord, je fais toujours confiance. Mm. Jusqu'à ce que la personne, même si j'ai entendu des choses négatives, je ne prends jamais ces choses for granted. Mm-hmm. Tu vois, je me dis toujours, fais-toi ta propre expérience.
Exact.
Et ce n'est que lorsque moi, je découvre que cette personne est ce qu'on avait dit, que je prends les décisions que je considère devoir prendre.
Oui.
Mais tant que moi, je n'ai pas fait cette expérience-là, l'humain, je fais confiance.
Je comprends.
Et ça, c'est une autre leçon apprise de ma grand-mère. Elle m'a appris à faire confiance en l'humain. Ma grand-mère, tu venais lui donner quelque chose, elle te dit, ah, donne-moi pas un kateye, on va dire quoi. Tu tournes le dos, quelqu'un vient. Fatchelif mandey. Bayu madara keur ga ding ko joxone mu genné ko jox ko
mu joxat ko kenen
ni ñu ne ko waaw mam li nga def na mu ne ah ma xaar yalla
c'est tout
tu vois elle était extraordinaire et je dis si c'était dans la religion catholique ben je l'aurais proposé pour être canonisé
parce
que elle le méritait, c'était une sainte dans tous les sens du terme. C'était une sainte
vraiment. Je comprends très, très bien. Et donc, grâce à elle, tu entres à l'école.
Donc, j'entre à l'école, j'avais pratiquement 9 ans, hein, parce que... Et sa petite sœur, elles ont le même père, mais pas la même mère, sa petite sœur qui lui dit, « Yo, Fat Sherif, regarde, yo, bouki école. Baye comme tu fais, yang, tog, passe. Nga baye comme tu fais, moudem, seyidi. Mouni, ko, demo, ko, yo, boumou, yang, di. Ndak, adina, defa, elbeti, ko. Baye, yang, di. Bu ëllëgé mu mënal bopam.
Oui.
Tu vois. Alors donc j'entre à l'école. À 9 ans, presque j'avais 8 ans passé quoi. Et évidemment ces deux
sœurs
m'aident. Et évidemment, je bosse bien. J'étais à l'école avec je me souviendrai toujours d'une certaine Lubna Assi. Alors on était en compétition. Si elle était première, j'étais deuxième. Si elle était première, parce que la prochaine fois, il faut que je reprenne ma place. Bon, voilà. Et c'est comme ça qu'arrivée en CM2, je me suis présentée en même temps à l'entrée en sixième et au concours d'entrée à l'école normale.
Ok, d'accord.
Parce que j'avais des institutrices qui étaient tellement bien que je n'avais qu'une envie,
de devenir
enseignante.
Oui.
Être maîtresse.
Je comprends. La naissance de vocation.
Voilà.
Oui.
Et donc, puisque l'école normale, c'était pour former les enseignants, je me suis dit, bon, je vais... C'est un concours. On recrutait 40 pour toute l'Afrique francophone. L'Afrique de langue française. Alors, évidemment, quand je me suis retrouvée à Rufus, que je me suis retrouvée avec des gens du Niger, du Mali, de la Guinée, etc., etc. Et parmi cette grande représentation de la diversité africaine francophone, il y a certaines qui sont restées des amies. Et une dont je me souviens toujours avec beaucoup d'affection, elle venait du Mali, elle s'appelait Ramatoulaye Traoré. Et en CM2, elle a Benko Jongle.
Excision.
Voilà. Elle m'a invitée. Je suis allée. C'était une belle fête. Elle a reçu des cadeaux. On a mangé. La musique, etc. Je rentre et je dis à ma grand-mère, « Manna, quand il y a une jongle ?»
J'ai eu la même chose de professeur Pendambo. Pareil, elle a vu une cérémonie d'excision et elle aussi, elle a voulu être...
Et c'est pour ça que jamais je n'ai pu accepter d'ostraciser cet acte-là.
C'est ceux qui cultivent la terre,
qui font ça.
Qui font l'excision.
Parce que,
oui.
Et c'est là où tu te rends compte que c'est un acte égalitaire.
Ok.
Mouné ndax goor ñi dañuy dindi li dess jigen ci ñom ñu jongal len ñom itam.
Ok.
Jigen ñi dañuy dindi li dess ci ñom ci goor motax ñu di len jongal.
Ah ouais, c'est comme ça qu'ils construisaient ça.
Bu boba goor gi buy ki souf ci
bu bekk, je sais plus comment ça s'appelle.
Xawma nak lañ koy waxé. Fekk na mu doon goor deug. Jigen di buy ñew di ji fekk na doon ñu jigen deug comme ça bu meñé meñ mi day bari
eh bé
donc en fait c'était de m'expliquer que en fait scientifiquement c'est vrai le prépuce c'est ce qui reste des grandes lèvres de l'embryon et le clitoris c'est ce qui reste parce que c'est du clitoris que pousse le sexe masculin.
Oh.
Et donc, le prépuce, c'est les grandes lèvres. Et le clitoris, c'est ce qui reste de ce qui n'est pas devenu le sexe de l'homme. Oui.
Yana mo kofie nero sila don kilile ila kola aha ilene la muluku moso yana mo kofie soro fale mo sonyo mana osikote no ne kona de ilele le fe
je t'aime mi amore de divertie enele
sauf que le souci parce que là on est le souci qu'on rencontre en fait au-delà de la conception même de cette mutilation je vais l'appeler comme ça parce que c'est ce en
moi,
quoi
jamais
je crois
je n'utilise
oui je comprends très bien c'est pour ça je dis c'est ce en quoi je crois c'est que là on a un je bug complètement j'attendais pas ça du tout
n'est-ce
et du coup
pas
j'arrive pas à le truc c'est que on a les opérations sur le clitoris ne se passent pas bien en règle générale. Là, en règle générale, dans ce qu'on voit, les femmes n'ont plus de plaisir. Il n'y a plus de plaisir féminin. Il y a tout ce qui peut s'en suivre en termes de déchirure, en termes de risque lors des accouchements, un certain nombre de choses.
Je n'en conviens pas. On est d'accord. Je t'entends.
Mais j'entends ce que les gens disent. En fait.
Mais c'est ça. C'est-à-dire
je
que
vois d'où
si,
tu
je prends, si je prends ce point de vue-là, qui dit nous devons être baïkat, ils n'ont quoi y faire,
et c'est comme ça qu'elle te l'a. Oui,
voilà.
Oui,
donc en fait, ça t'explique, ça n'a rien à voir avec cette vision où on dit.
Où on est jusque dans du barbarisme.
On est en train de les exciser pour les empêcher d'avoir du plaisir.
Ok.
Alors que ce n'est pas du tout ça.
Okay.
La raison primordiale, fondamentale, c'était en fait un acte égalitaire. On circoncit l'homme et on circoncit la femme.
Je vois ce que
pour les rendre tous les deux 100% ce que vous êtes. Mm-hmm. Vous êtes 100% femme, vous êtes 100% homme pour pouvoir jouer votre rôle jusqu'au bout pour la communauté. Parce que c'est ça qui va maintenant préserver la nourriture de la communauté.
Je comprends. Je comprends mieux. Je comprends l'explication.
Et donc, évidemment, quand on veut l'expliquer a posteriori, ça ne donne plus du tout le même sens.
Clairement pas.
Et surtout, en plus, quand tu l'expliques avec le regard de l'occidental, qui nous prend toujours comme des sauvages, hein? Donc on enlève à la femme son plaisir. L'Afrique n'a jamais enlevé à la femme quoi que ce soit. L'Afrique a toujours laissé à la femme son identité, son entièreté. Maintenant que, je dis toujours, il y a eu des perversions. Il y a eu des perversions par la colonisation arabo-musulmane. Et où, effectivement, on dit qu'il faut que la fille soit vierge. Et c'est là qu'il y a eu des perversions. Parce que peut-être que si on avait continué à le faire comme on le faisait dans le temps, mm-hmm. qui était un geste symbolique, mm-hmm. on n'en serait pas arrivé là où on est arrivé.
C'est-à-dire une ablation.
Exactement. De... Okay. Parce que c'était symbolique. Mm-hmm. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Avec l'islamisation et cette chose, parce que c'est, ça n'a rien à voir avec l'islam, la virginité, mm-hmm. parce que si c'était islamique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu entre 9 et 12 femmes selon les sources. Mm-hmm. Il n'a eu qu'une seule femme vierge. Mm-hmm. Et c'était Aïcha. Mm-hmm. Toutes les autres étaient plus âgées que lui, étaient divorcées ou veuves, etc. Donc mm-hmm. ça n'a rien à voir avec l'islam. Mm-hmm. Ça a à voir avec la culture arabe. Mm-hmm. Alors, évidemment, l'islam a été propagé mm-hmm. par des hommes. Mm-hmm. qui avaient leur vision d'homme, mm-hmm. d'homme arabe. Mm-hmm. La femme doit être vierge, tu dois être le premier à l'avoir consommée. Mm-hmm. Et voilà. Et donc, si tu regardes bien, c'est en Guinée, mm-hmm. c'est là où ils étaient très puissants, mm-hmm. que tu as eu vraiment ce qui s'est passé, l'excision où on non seulement te coupe le clitoris, mais où on te coupe.
L'infibulation.
Pour faire en sorte que lorsque quand tu vas te marier, tu seras vierge. Mmh. Parce qu'un homme ne pourra pas te pénétrer tant qu'on n'aura pas enlevé.
Oui, avec.
Voilà.
Oui,
oui. Donc ça n'a rien, absolument rien à voir avec notre culture.
Oui, je comprends.
C'est une perversion que nous avons eu à vivre mmh. par une autre culture qui est venue mmh. se sédimenter sur la nôtre. Mmh. Et c'est là où je dis que nous avons eu une rencontre. On pensait, quand on regarde les deux polygamies, parce qu'on dit, c'est vrai, l'Afrique a toujours été polygame, mm-hmm. mais la polygamie africaine traditionnelle, mm-hmm. matrilinéaire, n'a rien à voir avec la polygamie mm-hmm. arabe, mm-hmm. patrilinéaire et patriarcale. Mm-hmm. Et je dis, nous avons rencontré mm-hmm. Cette religion et nous avons eu beaucoup de malentendus. Mm-hmm. pour être gentil et poli. Nous avons eu beaucoup de malentendus. Mm-hmm. Et un de ces malentendus, c'est ça, c'est cette polygamie. Mm-hmm. La polygamie africaine traditionnelle, mm-hmm. où en fait la femme choisissait ses co-épouses. Mm-hmm. Parce qu'elle était dans une situation qui faisait qu'elle ne pouvait pas satisfaire son mari. Donc, elle choisissait sa co-épouse. Mm-hmm. Alors que là, c'est l'homme qui choisit lui-même qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et dans cette polygamie-là, mm-hmm. si on l'avait laissée telle qu'elle était, mm-hmm. la femme avait une liberté. Et c'est pour cette raison que l'on dit souvent que les femmes peules sont légères. Alors, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout de cette chose.
Oui.
Alors, les femmes peules sont légères. Pourquoi? Parce que, vu que c'est une culture nomade, mm-hmm. où l'on se déplace, mm-hmm. et où l'homme va souvent loin mm-hmm. pendant longtemps, mm-hmm. il était entendu que la femme pouvait avoir des relations extra-conjugales comme l'homme en avait.
Moi, je suis d'accord. Pour
et selon la position des chaussures de son visiteur, mm-hmm. son mari pouvait savoir s'il pouvait entrer ou pas.
Ok.
Et c'est pour empêcher cela. Donc, en fait, ça, c'était la culture là. Mm-hmm. Donc, avec l'islam, et la religion et la culture arabe mm-hmm. basée sur la virginité, mm-hmm. c'est à partir de là que nous avons eu ces histoires de coudre et etc etc ouais. et parce que la femme pouvait mm-hmm. effectivement, elle avait cette liberté mm-hmm. parce que c'était pas important qui était le père d'un enfant mm-hmm. c'est puisque l'enfant allait hériter du côté du clan de sa mère mm-hmm. donc il n'y a pas de bâtard. Et j'ai regardé dans la langue Wolof. Mm-hmm. J'ai essayé de trouver un mot qui puisse dire bâtard. Il mm-hmm. n'y a pas un mot Wolof oui. qui dise bâtard. Il faut l'accoler à un mot arabe. Mm-hmm. On dit domu haram. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, bâtard n'existe pas. Il n'y a pas de bâtard.
Oui.
Tous les enfants d'une femme, on sait à 100%, qui sont ses enfants. Et vu que ses enfants, dans la tradition, héritaient du côté mm-hmm. de son frère, mm-hmm. donc, il n'y a pas d'usurpation. Mm. Et c'est là où je dis que nous avons eu des malentendus à la rencontre avec, avec l'islam et principalement la culture arabe. Et malheureusement, je considère que dans notre pays, nous prenons de plus en plus une culture et nous en faisons une religion.
Oui.
Malheureusement. Oui. Et quand je vois maintenant les jeunes s'habiller comme des Saoudiennes ou des, des Saoudiennes ou des Afghanes, je me dis, mais ce n'est pas possible. Ça veut dire donc que la manière dont nos parents s'habillaient, dont cette grand-mère-là qui m'a fermé, qui a fait de moi qui je suis, s'habillait, qui était une shérif, n'était pas décente. Ce qu'elle mettait n'était pas acceptable. Pourquoi faut-il aujourd'hui que nous nous dévêtissions de notre identité? Déjà que nous avons adapté à la religion musulmane, parce qu'avant, les femmes, je me souviens très bien, se promener buste nu, torse nu.
Oui.
Parce que
les seins n'étaient pas sexualisés.
Bon. Donc, quand la religion est arrivée, évidemment, on nous a, surtout les musulmanes, on nous a fait mettre les boubous, les foulards, etc. Et je considère que c'est des tenues saillantes. Elles sont belles. Elles sont. Je ne comprends pas que l'on aille se mettre cette espèce de chose-là qui vous serre le visage, Mais moi, quand je suis allée en Jordanie, puisque j'étais directrice du bureau et représentante là-bas, je vais à la mosquée une première fois avec ma tenue sénégalaise. Ma voisine a tiré, au moment où on se mise debout pour faire... tirer mon boubou, et je dis, mais à la fin, je dis, mais pourquoi tu tirais mon boubou? Elle me dit, parce que ça ne couvrait pas vos pieds. Je dis, je vais vous dire une chose, c'est avec ça que je suis allée à la Mecque. Et je suis allée plusieurs fois à la Mecque, et je suis sûre que vous n'êtes jamais allée à la Mecque. Alors, c'est avec ça que j'y vais. Si je peux aller à la Mecque avec ça, je considère que je peux venir à la mosquée avec ça. Une autre fois, donc j'ai changé de mosquée, je suis allée dans une autre mosquée. Alors là, je me suis dit, je vais mettre une djellaba. Peut-être que là, ils comprendront mieux. Donc, je mets ma djellaba, je mets le câlin, comme on le fait ici. Et au moment où je me suis assise pour faire mon wild, il y en a une qui passe par derrière, qui attrape le câlin comme ça,
qui le tourne,
puis qui me fait ça. Je me tourne et je dis, mais vous êtes folle ou quoi? Qu'est-ce qui vous prend? Elle me dit, oui, il ne faut pas qu'on voit votre cou. Je dis, vous ne voulez pas voir mon cou. C'est votre problème. Mais moi, c'est comme ça que je m'habille chez moi. Et c'est comme ça que je suis allée à la Mecque. Et donc, vous ne pouvez pas. Je ne suis pas arabe. Je ne suis pas jordanienne. Je ne suis pas saoudienne. Je suis sénégalaise. Et je suis habillée comme ça. Et je suis fière d'être habillée comme ça. Donc, voilà. Et c'est comme ça que j'ai arrêté d'aller à la mosquée en Jordanie. Donc, les vendredis, puisque... Damas était à une heure, j'allais à Damas. Parce que par contre, à Damas, et c'est là où tu te rends compte de quand les gens ont une culture millénaire, etc., la Syrie a eu tellement de mestizage qu'à Damas, les gens me demandaient, mais d'où venez-vous? Elle est tellement belle, votre tenue, etc., etc. Bon, là-bas, c'était des tribus, il y a peut-être... c'était des gens dans le désert. C'est devenu un pays très récemment. Et donc, si tu compares ça par rapport à la Syrie, tu vois déjà cette différence de voir l'autre, d'accueillir l'autre, de la manière dont on perçoit l'autre. En Syrie, on se dit, elle est différente. Mais en Jordanie, on se dit, elle n'est pas des nôtres. Tu vois, elle n'est pas des nôtres. Il faut qu'elle se plie à ce qui existe chez nous. Et c'est là où tu te rends compte de cette différence entre des cultures millénaires et des choses nouvelles. Voilà. Donc, voilà. Alors, je fais donc mes études. Je vais à l'internat, à Rufisque.
À l'école normale.
À l'école normale de Rufisque. Une parenthèse ici, je suis tellement désolée ce qui est arrivé avec cette école normale. Mm. Alors, avec ma promotion, on a introduit d'autres matières pour que les jeunes filles puissent aller faire des études plus avancées que de s'arrêter au brevet. Parce qu'on s'arrêtait au brevet et on faisait la formation pédagogique et on enseignait.
Okay.
Donc, ils ont ajouté des matières puisque pour qu'on puisse aller maintenant faire le second cycle du secondaire.
D'accord.
Et moi, arrivée en troisième, évidemment, ambitieuse, il y avait un concours pour pouvoir continuer. Aller en seconde, donc j'ai fait le concours et je suis revenue à Dakar au lycée de jeunes filles.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
C'était bien avant Kennedy, évidemment. quand je passe maintenant à la Ruitière où on avait l'internat et ce qu'on appelait le petit lycée, qui ne sont plus du tout ce que c'était, j'ai un petit pincement au cœur, mais voilà, c'est le temps qui passe, Et puis après le bac, j'ai fait l'école normale supérieure.
Oui.
Et pendant que j'enseignais, je me suis inscrite à l'université et j'ai continué mes études. Et c'est comme ça que je suis arrivée.
De fil en aiguille,
le niveau maîtrise, etc. Voilà. Puis après, je suis allée en Angleterre pour un diplôme post-universitaire en sciences de l'éducation, évidemment. Et bon, voilà. Alors, et
mais
puis
pourquoi
après,
l'anglais?
Parce que j'aimais cette langue. J'adorais cette langue.
Et puis voilà, et tu poursuis comme ça.
Oui, je poursuis comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je me bats en tant que francophone, sur le plan international, je dis, vous savez, c'est pas parce que je comprends pas anglais, bien au contraire, j'adore cette langue. Mais en même temps, je combats la pensée unique. Et le fait que maintenant, la globalisation, parce que moi, je fais la différence entre la globalisation et la mondialisation. La mondialisation, c'est ce mouvement naturel, normal d'un monde qui devient de plus en plus petit et qui a commencé depuis l'homme de Cro-Magnon, qui est sorti de sa grotte et qui a exploré autour de lui. Bon, donc, comme aujourd'hui, nous voulons sortir de cette planète Terre pour aller voir ce qui se passe sur Mars, etc. Donc, ça, c'est normal. C'est là mondialisation. Mais ce qui n'est pas normal, c'est la pensée unique que nous avons, que nous pensons être normale et naturelle, de la globalisation qui est en fait un projet de société qui a été enfanté par le capitalisme impérial. Tu vois, c'est le moyen mondialisé du capitalisme impérialiste. Et c'est pour cette raison qu'on a des GAFA, etc., etc. Pourquoi? Parce que les plus gros mangent les plus petits. Alors, les plus grands mangent les plus petits jusqu'au jour où il n'y aura plus de plus petits. Hein, et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, ils sont plus puissants que les États.
Oui, tout à fait.
Et je disais un jour à quelqu'un, au moins du temps de la colonisation, on savait à qui on avait affaire. C'était ou les Français, ou les Anglais, ou les Portugais, ou les Espagnols. Mais là, à l'heure actuelle, avec les SA, les LTD, etc., on ne sait pas à qui on a affaire. C'est sans visage, sans nationalité, sans rien. Ils ont le fric, ils ont le pouvoir, ils ont tellement le pouvoir qu'ils l'imposent à nos pays. Avant, tu pouvais dire, je vais me battre pour avoir mon indépendance. Là, tu te bats contre quoi?
Comment?
Et on accepte, hein? On accepte. Et je disais un jour, à toujours Mayor, parce que c'est de ce temps qu'on a changé un certain nombre de choses à l'UNESCO. Heureusement que je suis partie avant. Où, en fait, le bureau du personnel est devenu le bureau des ressources humaines, et où les fonctionnaires spécialistes de programme sont devenus des managers, et où les États membres sont devenus des clients. Parce qu'il fallait s'adapter au logiciel pour pouvoir utiliser le système numérique, informatique, etc. Et donc, je lui ai dit, monsieur le directeur général, aujourd'hui, vous êtes en train de critiquer les institutions de Bretton Woods, mm-hmm. parce qu'effectivement, ce sont ceux qui, au niveau international, mm-hmm. poussent en avant mm-hmm. Le capitalisme, hein, mm-hmm. qu'on le veuille ou pas. Mm-hmm. Alors, vous êtes en train de les critiquer, mais c'est vous qui avez introduit à l'UNESCO mm-hmm. Les ressources humaines, mm-hmm. les managers mm-hmm. et les clients. Mm-hmm. Je dis parce que nous avons accepté de devenir des ressources, mm-hmm. comme l'argent, mm-hmm. comme le pétrole, mm-hmm. comme le gaz, mm-hmm. comme l'énergie éolienne. Mm-hmm. Nous sommes des ressources au service de l'économie. Mm-hmm. Et ça, c'est le capitalisme horrible, pur et dur. Et moi, je ne veux pas qu'on me mette comme équivalent de la globalisation, la mondialisation, mm-hmm. ça n'a rien à voir, mm-hmm. absolument rien à voir. Donc, je pense que très souvent, ou trop souvent, mm-hmm. nous prenons des choses en pensant que c'est la mode, mm-hmm. en pensant que c'est moderne, mm-hmm. alors que nous sommes en train de nous enslave.
Oui.
Hein?
Oui.
Et ça me fait penser à ce que la Boétie, qui avait 17 ans, avait mm-hmm. écrit au 17e siècle.
Il y a très longtemps.
Très, très longtemps. Et qu'il avait appelé la servitude
volontaire.
Oui. Et c'est ça qui nous arrive à l'heure actuelle. Même avec nos sœurs qui se mettent cette chose-là, mm-hmm. c'est une servitude volontaire.
Okay.
D'aller épouser l'identité de quelqu'un d'autre à la place de ton identité, mm-hmm. moi, je trouve que c'est une servitude. Mm-hmm. Et d'aller tout le temps parler anglais, mm-hmm. alors que, bon, c'est vrai que l'anglais n'est pas ma langue maternelle.
Oui.
Le français n'est pas ma langue maternelle. Mm-hmm. Donc, quel que soit X, l'anglais est une langue aussi de colonisation,
oui.
comme le français est
oui.
une langue de colonisation.
Oui.
Si je rejette le français, je rejette l'anglais aussi, mm-hmm. parce que pour moi, toutes les deux mm-hmm. sont des langues de colonisation.
Oui.
Alors, pourquoi l'une serait meilleure que l'autre?
Mm-hmm.
Et c'est pour ça que je ne comprends pas ces États africains francophones qui, en allant mm-hmm. en voulant rejoindre mm-hmm. l'anglophonie mm-hmm. fait des éclats pour qu'on sache que mais nous avons le Ghana.
Ils quittent un colon pour un autre.
Exactement. Nous avons le Ghana.
Mm-hmm.
qui est membre de la francophonie.
Mm-hmm.
Mais le Ghana n'a jamais fait d'éclat mm-hmm. en disant, bon, non, il n'a pas quitté
mm-hmm.
le Commonwealth. Il a simplement dit, moi, je veux devenir membre de la francophonie.
Mm-hmm.
Et en faisant ça,
mm-hmm.
tu montres une certaine ouverture
mm-hmm.
plutôt qu'une fermeture.
Mm-hmm.
Tu montres que, bon, voilà, moi, je suis avec les anglophones
mm-hmm.
dans le cadre du Commonwealth,
mm-hmm.
mais je veux aller voir aussi ce qui se passe de l'autre côté avec mes autres frères et sœurs
mm-hmm.
qui sont dans ce domaine-là.
Mm-hmm.
Ça permet un brassage,
mm-hmm.
ça permet de comprendre quels sont les atouts par rapport à ici, quels sont les handicaps, etc.
Mm-hmm.
Parce qu'il n'y a aucune colonisation meilleure que l'autre. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune.
Mm-hmm.
On peut a posteriori dire, bon, les Anglais ont préservé. Ils n'ont pas préservé. Les Anglais ont décidé que nous autres, sauvages, on n'était pas capables de devenir des sujets de la reine. Et si je vous le dis, je sais de quoi je cause. Nous n'étions pas capables de nous hisser à la hauteur d'être des sujets de la reine. Donc, ils nous ont laissés là où on était. Tant mieux pour nous. Pour, en tous les cas, ceux qui n'ont pas pu.
Exactement.
Mais si vous allez en Afrique de l'Est, vous allez voir la différence
mm-hmm.
entre la colonisation anglophone en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Et celle de l'Est.
Mm-hmm.
Afrique de l'Ouest, c'était une colonisation où ils venaient prendre ce qu'ils avaient envie de prendre, s'en aller.
Mm-hmm.
Il y avait trop de moustiques, c'était trop chaud, etc. etc. Donc, ce n'était pas une colonisation de population.
Mm-hmm.
Mais l'Afrique de l'Ouest, de l'Est,
mm-hmm.
où ils avaient le bon climat, etc.
Mm-hmm.
etc. c'était une colonisation de population. Et si tu vas en Afrique de l'Est, tu te rends compte que c'est comme ça qu'il y a eu l'apartheid,
mm-hmm.
qu'il y a eu évidemment de plus en plus de séparation
Par exemple, au Kenya, dans les années 80, mm-hmm. quand je suis allée, parce que j'ai commencé au Kenya, mm-hmm. en 80, tu voyais que les maisons étaient construites de telle sorte que les domestiques noirs n'avaient aucun contact avec leur patron blanc. Et ça s'est avéré encore plus quand je suis allée en Namibie, à la préparation de l'indépendance de la Namibie, qui s'appelait Southwest Africa, mm-hmm. en 1989. Quand on est arrivé et que les Nations Unies ont négocié mm-hmm. avec l'Afrique du Sud mm-hmm. pour que les non-blancs puissent être considérés comme des blancs honoraires. En 1989, nous avons été acceptés à ce qui deviendra la Namibie, qui était la Southwest Africa, en tant que blanc honoraire. Es-tu allé là-bas, les restaurants, les trucs, les machins, partout c'était écrit « No dogs, no blacks allowed ». Donc les chiens arrivaient même avant nous. Pas de chiens, pas de noirs. Donc, la ville était divisée en trois parties. La plus grande partie de la ville de Windhoek, c'était Olympia, etc., etc. C'était là où habitaient les blancs. Ensuite, tu avais une partie qui s'appelait Katatura. Et Katatura, c'est là où habitaient les bastards. Et ils s'appelaient comme ça, ils étaient fiers d'être des bâtards parce qu'ils avaient une petite goutte de sang de par le fait que leur mère avait été violée par les blancs. Et ils étaient fiers. Et ensuite, on avait Katatura où étaient les noirs. Voilà, donc la ville était divisée selon la couleur de la peau. Tu avais donc les blancs du côté de Olympia et autres. Tu avais les métis qui ne s'appelaient pas métis mais bastards. Et tu avais les noirs. Alors, nous, on était évidemment acceptés à Olympia parce mm-hmm. que tu avais plein de blancs qui se disent qu'ils ne voulaient pas rester là mm-hmm. parce que ça va être un gouvernement de noirs. Ils n'avaient pas envie d'être là. Et je me souviens, j'étais avec une amie blanche américaine, mais mariée à un Soudanais, noir de G. Mm-hmm. Et nous sommes allés chercher une maison, parce qu'on était à l'hôtel, on a dit on en a assez de l'hôtel, on va chercher une maison. On est allé chercher une maison, et puis on est allé en visiter une. Et le propriétaire nous explique. Moi, je n'existais pas pour lui. J'étais, mm-hmm. j'étais noire, donc transparente. Donc il parlait à mon amie, Karen. Il lui dit, vous voyez, j'étais avant à ce qui est devenu l'Ouganda. Mm-hmm. Ensuite, à ce qui est devenu, puis je suis partie quand l'Ouganda est devenu. Je suis partie à ce qui est devenu le Zimbabwe. Je suis venue ici. Maintenant, là maintenant, je vais repartir en Afrique du Sud. Alors, je lui ai dit, sir, but South Africa will soon become independent. So when it's going to become independent, there is no more land. You'll have to jump into the ocean. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une autre personne que Karen. Donc à chaque fois qu'il y avait une indépendance, il allait dans le pays suivant. Le dernier pays là, c'est l'Afrique du Sud.
Exact.
Et vu que Mandela est sorti de prison,
c'est mort pour toi.
L'église s'est terminée. Après ça, dangay sobuti
geejji. Dangay dem ba cap de bonne espérance, nga dem fof, nga sob.
Tu vois, alors ça, je ne pense pas qu'on l'ait eu avec la colonisation française. Parce que le seul endroit où il y a eu une colonisation de population, c'était l'Algérie. Et évidemment, on sait ce qui s'est passé en Algérie. Mais c'est sûr que l'on a maltraité la population indigène, que, évidemment, à partir de là, il y a eu des fractures, les harkis ici, etc., etc., la guerre d'indépendance, mais c'est le seul pays où ils ont eu ça en Afrique. Peut-être que dans d'autres pays, comme chez les Kanaks et autres, mais pour l'Afrique, en tous les cas. Et donc, je considère, moi, que la colonisation anglaise, si aujourd'hui on veut l'en oublier, je suis tout à fait contre ça. Je me porte en faux par rapport à ça, parce que c'est pas vrai. ne nous comparer seulement les gens d'Afrique de l'Est et les gens d'Afrique de l'Ouest. Mm-hmm. Et ils verront les systèmes tels que ça existait. Mm-hmm. Et pourquoi aujourd'hui, par exemple, dans les cours de pays anglophones, mm-hmm. ils mettent la perruque blanche là.
Oui. C'est une horreur absolue. Je ne sais pas s'ils sont au courant ou si quelqu'un leur a dit, mais dans tous les cas, c'est une horreur absolue.
Donc, il y a des tas de choses que l'on pourrait reprocher à la colonisation mm-hmm. anglaise. Mm-hmm. Et que malheureusement, nous nous enjolivons au point que les anglophones mm-hmm. se moquent de nous en disant « They are French. These French. Mm-hmm. Ah, I'm not French. I just speak French. I'm not French. And I don't want to become French either.
Marie, on arrive à la fin et discuter avec toi était un réel plaisir. C'est toujours un réel plaisir. Je t'ai vu reparcourir avec moi ta vie, tes choix, tes carrières, les enseignements de ta grand-mère. Et on arrive à ce moment où là, aujourd'hui, à Dakar, assise, installée, est-ce que tu dirais que tu es à ta place maintenant? Parce que cette place, tu l'as cherchée, tu l'as trouvée à certains moments, tu as bougé à d'autres, parce qu'on a parlé du fait que tu as divorcé à un moment, tu as beaucoup bougé professionnellement, tu as évolué, tu es partie de, on va dire, enseignante pour arriver directrice, résidente pays de l'UNESCO. Il y a eu beaucoup de mouvements dans ta vie. Aujourd'hui, est-ce que tu es à ta place?
Je crois que oui. Je crois que oui. Je pense que je suis à ma place. Pas une place physique.
Mm-hmm, c'est ça.
Pas une place géographique.
Mm-hmm.
Puisque j'ai décidé d'aller m'installer au Canada.
Mm-hmm.
C'est pas de gaieté de cœur que je l'ai fait, mais je l'ai fait parce mm-hmm. que dans la vie, il faut faire des choix.
Mm-hmm.
Quand je suis revenue ici après ma retraite, je me suis rendu compte que pour ma sanité mentale, il fallait que je m'en aille. Et je suis allée au Canada parce que j'y ai passé 5 années où mm-hmm. j'ai découvert des choses extraordinaires de ce mm-hmm. pays. D'abord, c'est un pays de colonisation,
mm-hmm.
hein, avec évidemment tout le mal qui a été fait aux peuples autochtones,
mm-hmm.
ce qui me rapprochait beaucoup d'eux,
mm-hmm.
mais beaucoup m'a rapproché aussi des francophones, mm-hmm. parce qu'au moment où les Anglais et les Français se sont battus et où les Anglais ont gagné,
mm-hmm.
eux, les francophones, ont mm-hmm. été soumis par les anglophones.
Mm-hmm.
Et c'est ce qui a amené le Québec à vouloir son indépendance.
Mm-hmm.
Parce qu'on leur interdisait de parler français quand ils travaillaient dans des organismes anglophones.
Mm-hmm.
Donc, quand ils m'ont raconté toute leur misère, j'ai compris
mm-hmm.
leur envie
mm-hmm.
de devenir indépendant.
Mm-hmm.
d'avoir un Québec libre, mm-hmm. comme l'a dit le général de Gaulle mm-hmm. en 1967. Donc, et l'Église avait une chape sur eux,
mm-hmm.
et où les femmes devaient faire des enfants tous les ans. Il y a des femmes qui ont fait 24 enfants, parce qu'il fallait peupler le Bas-Canada, donc là où se trouvaient les francophones.
Mm-hmm.
Et ils ont enclenché la révolution tranquille, en 1960, pour se débarrasser de cette chape de l'Église.
Mm-hmm.
Et je comprends, quand tu viens de là,
mm-hmm.
que les femmes s'étaient tellement battues
mm-hmm.
qu'à l'heure actuelle,
mm-hmm.
tu ne portes pas le nom de ton mari. Mm-hmm. Elles se sont battues pour ne pas porter le nom de leur mari.
Mm-hmm.
Et tout ça est une composante par rapport mm-hmm. à leur indépendance en tant que femme. Donc, je comprends maintenant qu'elle, quand elle voit arriver les femmes voilées, se dire, ben, nous avons combattu, nous, notre religion qu'on avait pour sortir l'Église de nos vies, ben, là, on est en train de voir des femmes voilées venir prendre le dessus. Et je leur dis souvent, écoutez, toutes les femmes musulmanes ne sont pas habillées comme ça. Vous appelez ça voilée. Moi, j'aime pas qu'on appelle ça voilée, parce que voilée, tu te mets sur le visage. Elles sont pas voilées. Elles ont un truc sur la tête que vous appelez voile, mais qui est en fait un foulard. Et Marie, la mère de Jésus, avait cette chose sur sa tête. Donc, je crois qu'au lieu d'ostraciser les gens, au lieu de les stigmatiser, essayez simplement de comprendre pourquoi. Et on a eu une réunion avec le ministre, un ministre qui s'occupait de ces histoires d'identité québécoise, ou évidemment le combat islamophobe. Alors, on était une quinzaine de femmes de plusieurs horizons, dont des Québécoises d'origine qui s'étaient converties à l'islam. Et puis, arrivé à moi, j'avais mon grand boubou, mon tagal, et je lui ai posé la question. J'ai dit, monsieur le ministre, considérez-vous que ceci soit un signe ostentatoire religieux? Il me dit non. Je dis, ben écoutez, oui, c'est vrai que ça ne l'est plus, mais c'était un signe religieux. Parce qu'au départ, le foulard nous a été imposé par la religion musulmane. Mais la femme sénégalaise, tellement inventive, a fait cette tenue aujourd'hui, qui fait que vous ne vous rendez même pas compte que ce fut à l'origine un signe religieux. Donc, pourquoi c'est devenu même maintenant une tenue africaine? Parce qu'on n'a jamais mis le doigt en disant « ça, c'est une tenue religieuse musulmane ». Alors, si vous arrêtez de pointer le doigt sur ce que vous appelez le voile, ça se passera beaucoup mieux.
Et merci.
Donc voilà ma fille, j'essaye simplement de trouver cette place qui est en fait une place d'un citoyen de cette planète, d'une citoyenne de cette planète. Et je me ferai ma place là-bas, au Canada, maintenant en tant que citoyenne canadienne, puisque j'y ai d'abord travaillé, c'est comme ça que j'ai compris qu'ils avaient beaucoup à faire. Par exemple, là-bas, ils assimilent l'âgisme au racisme. Donc, c'est pour cette raison que personne ne peut vous obliger à prendre la retraite. Vous avez l'âge auquel vous pouvez aller à la retraite, mais si vous n'avez pas envie de prendre la retraite, vous n'êtes pas obligé
de la prendre.
Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez travailler jusqu'à mourir sur votre bureau. Personne ne peut vous obliger à le faire. On ne peut pas vous nier un droit que les autres citoyens ont, quel que soit leur âge, leur couleur de la peau, leur religion, etc. Parce que vous avez tel âge. Hier, j'étais à la banque qui me disait, il y a tel taux préférentiel. J'ai dit, ben, est-ce que c'est possible ça? Elle me dit, oui, mais quel âge avez-vous? Je lui ai dit, elle m'a dit, malheureusement, ce ne sera pas possible.
Comme l'assurance maladie.
Vous savez, vous savez, madame, si c'était au Canada, je vous aurais mis un procès. Parce que là-bas, l'âgisme est du racisme. Bon, voilà. Donc, il y a ces choses qui font que, à mon âge, je considère que j'ai une place là-bas. Et c'est pour ça que je dis, oui, j'ai ma place, qui est une place au niveau de mondial, parce que, comme dit Edgar Morin, nous devons apprendre cette citoyenneté planétaire. Et je pense que je suis en plein dans cette citoyenneté planétaire. Et oui, j'ai cette place-là en tant que citoyenne planétaire. Oui.
Et, Tata Ndaye-Marie, si tu avais 20 ans cette année, qu'aurais-tu aimé savoir? C'est ma dernière question.
J'ai aucune envie d'avoir 20 ans aujourd'hui. Je suis très bien à ma place. Je suis très bien dans ma peau. Et même, je dois dire que j'ai pitié des jeunes d'aujourd'hui.
Dites-moi.
Vraiment. Et c'est pour ça que je dis que je me sens coupable par rapport à mes petits-enfants.
Oui, je comprends.
Parce que je n'ai pas pu leur donner autant que ma grand-mère m'a donné. Mmh. Et je... Probablement qu'eux se sentent très bien là, oui, hein, oui. Où ils sont, parce que, bon, ils vont vivre avec leur temps, etc. Mais moi, je n'ai aucune envie d'avoir 20 ans aujourd'hui.
Merci beaucoup,
Ndeye Marie-Fall. Je suis très bien avec mes 4 fois 20.
Merci, merci beaucoup, Ndeye Marie-Fall. Merci d'avoir accepté de me recevoir dans Conversation
Féminine. Merci, Sibida. Merci beaucoup. Et je vois que ce dialogue intergénérationnel est allé au bout.
Oui, oui, on est allé jusqu'au bout.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Cet épisode a pu être réalisé grâce au soutien de la Fondation Heinrich Boll. Merci d'avoir écouté cet épisode de Conversation Féminine. Je vous retrouve tous les 15 jours sur Du Coq à l'Âne.
Assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho. Deixa morrer, tá sonhando. É assim que uma bomba nasce ninho. Assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho. Deixa morrer, tá sonhando. É assim que uma bomba nasce ninho.